VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 19 janvier 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations. L'Afrique du Sud lance la première usine de vaccins anti-Covid fabriquée sur le continent. Reporters sans frontières appelle le président tunisien à préserver la liberté de la presse. Ici aux États-Unis, le nouvel Internet mobile ultra-rapide 5G devra attendre pour son déploiement autour de certains aéroports. Les régulateurs du secteur ont pris en compte les risques de perturbation. Le secrétaire d'État américain a annoncé aujourd'hui à Kiev le déblocage de 200 millions de dollars supplémentaires d'aide sécuritaire à l'Ukraine. CAN 2021 au Cameroun, Emmanuel Jelentap nous rejoint dans un instant en ouverture dans le journal des sports. Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'avant-dernière ligne droite pour la phase des poules. Le groupe D livre son verdict ce soir au terme de la troisième journée. 6 pays ont déjà composté leur ticket pour les huitièmes de finale. À Yaoundé, le journal de la CAN avec Emmanuel Violenta.
Bonsoir. Dans le groupe D, la Guinée-Bissau et l'Égypte seront fixés ce soir si l'une des sélections va accompagner d'office le Nigeria au huitième de finale de la CAN. Les pharaons d'Égypte, deuxième du groupe, ont 3 points et devront battre le Soudan, dernier au classement, avec 1 point pour décrocher la deuxième place du groupe. La Guinée-Bissau, qui peut logiquement occuper la deuxième place du groupe, devra pour sa part batailler dur pour espérer sortir vainqueur du Nigeria, jusqu'ici crédité d'un parcours sans faute en 2 sorties. Le Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Maroc et le Gabon sont les premiers qualifiés de la phase des poules. Le Malawi et le Cap-Vert sont encore dans l'attente et pourraient figurer parmi les 4 meilleurs 3e à l'issue de la phase des poules. Hier, le Gabon s'est qualifié après avoir tenu en échec 2 buts partout le Maroc. Je propose d'écouter la joie des supporters des Panthères du Gabon à l'issue du match d'hier au stade Omnisports de Yaoundé.
L'équipe ne fait que monter en puissance. Le Gabon ne fait que monter. Donc nous sommes sûrs de gagner les 8e de finale. Malgré la position, la deuxième place qu'on va prendre, c'est pas grave.
Alors est-ce qu'il y a un point qui vous a peut-être pas satisfait aujourd'hui?
Ouais, le point qui nous a satisfait, c'est que on n'a pas trop senti l'absence de Aubameyang. Parce qu'on a des nouveaux comme Boupenza, comme Alevina, qui ont mouillé le maillot gabonais. Voilà, ils ont fait ce qui était de droit. Ils ont marqué des buts et tout le Gabon est content. Nous sommes contents de notre position et de notre place.
Okay, merci, M. Constantin.
Merci.
Un match très intéressant. Notre souhait aurait été que le Gabon gagne. Ça, il faut dire la vérité. Notre voisin le plus proche méritait de gagner ce match. Mais les choses se sont passées autrement. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite.
Le Zimbabwe est sorti de la compétition sur une victoire face à la Guinée-Conakry. Norman Mpesa, l'entraîneur des Warriors, pense que le niveau de la CAN cette année est élevé et félicite aussi le Cameroun pour la qualité des infrastructures.
Si vous regardez les stades ici, ce sont tous d'immenses stades. J'étais ici par le passé, en 1993, lorsque nous avons affronté le Cameroun en éliminatoire de la Coupe du Monde. Ce n'était pas comme cela. Maintenant, ce sont des stades modernes. Et cela montre que le Cameroun développe son football, qu'il investit beaucoup dans son football. Et c'est là une leçon que j'apporterai au pays, aux responsables de notre football.
Le groupe E sera à l'honneur demain avec un duel entre Elephant et Fennec. C'est aussi et surtout un match des supporters. Certains se prononcent avant la confrontation de demain soir.
Le match contre l'Algérie, c'est une fête pour nous, quoi. Nous, on vient prendre un ticket pour qualification, pour prochain tour. Ce qui nous intéresse, ce trophée, on va partir avec. Il n'y a jamais 2 centraux. Donc, 3e trophée, là, c'est ici qu'on va prendre. Rendez-vous le 6 février pour la finale de la CAN.
Jusqu'à présent, je pense que l'équipe est bonne. C'est juste cette petite erreur du gardien. Bon, il a voulu faire quelque chose, il a raté, c'est arrivé. Sinon, bon, on est là, on sait que ça va aller. On va se qualifier. Inch'Allah.
D'accord. Et d'après les calculs, on a commencé à faire plein de calculs ici à l'hôtel. Et il faut gagner en fait. C'est, tout simplement, il faut gagner contre la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui avec de très bonnes individualités et qu'on a l'habitude de jouer contre cette équipe. Et dans tous les cas, il faudra gagner. Il faudra sortir un gros match contre un grand pays africain. Et dos au mur, l'Algérie est un pays qui donne tout et qui est présent dans ces grands rendez-vous.
Pour le match, prochain match contre les Ivoiriens, on est obligé de gagner pour se qualifier. Parce que nous, on était les champions en 2019 en Égypte, la CAN, la dernière CAN. Mais Inch'Allah, cette CAN, on va gagner ce match pour faire la joie en Algérie. Parce que les Algériens, le football, ça coule dans leur sang.
L'autre match de ce groupe va mettre aux prises la surprenante équipe de Sierra Leone à la Guinée équatoriale. Le troisième et le deuxième du groupe E sont à l'affût des Ivoiriens et Algériens. Les matchs Gambie-Tunisie et Mali-Mauritanie sont également programmés demain dans le groupe F. Le journal de la CAN s'achève. Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
À présent, la suite du journal, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a annoncé le déblocage de 200 millions de dollars supplémentaires d'aide sécuritaire à l'Ukraine. L'administration Biden a aussi déclaré qu'elle était prête à soutenir militairement l'Ukraine. On écoute le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken.
Well, first, we've offered Russia a clear choice, a choice between
Nous avons offert à la Russie un choix évident entre la voie du dialogue et de la diplomatie d'un côté et la confrontation et ses conséquences de l'autre. Et nous avons entrepris d'intenses échanges diplomatiques avec la Russie directement, avec l'OTAN et l'OSCE. Mon souhait est toujours que la Russie choisisse la voie diplomatique. C'est clairement préférable. Mais nous avons dit clairement aussi que si la Russie venait à renouveler son agression contre l'Ukraine, nous, pas seulement les États-Unis, mais plusieurs pays en Europe et peut-être ailleurs, nous répondrions avec force et détermination et de trois façons.
We'll respond very forcefully and resolutely and in three ways.
D'abord, nous avons œuvré intensément à l'élaboration de sanctions sévères, financières, économiques, contrôle des exportations et autres, en étroite collaboration avec nos partenaires européens.
We're doing that in very close coordination with European allies and partners. A second consequence would almost certainly be
ensuite, davantage d'assistance militaire et en matière de défense à l'Ukraine. Et troisièmement, il est presque certain que l'OTAN va devoir renforcer sa propre défense sur son flanc oriental.
Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. Joe Biden donne une conférence de presse ce soir, un an après son arrivée à la Maison-Blanche. Donnant un avant-goût de ce rendez-vous prévu à 21h GMT, la porte-parole du président américain, James Saki, a promis mardi que désormais, Joe Biden allait parler davantage des succès engrangés depuis son investiture le 20 janvier 2021. L'Afrique du Sud a lancé mercredi au Cap la première usine du continent qui fabriquera des vaccins financés par le milliardaire des biotechnologies Patrick Soon-Shiong. Les détails avec Ginny Kapubu-Villa.
L'objectif est la production d'un vaccin de deuxième génération et nous voulons le fabriquer en Afrique pour l'Afrique et l'exporter dans le monde entier, a déclaré l'entrepreneur américain d'origine chinoise né en Afrique du Sud. Les premiers vaccins seront produits cette année et le site devrait atteindre 1 milliard de doses par an d'ici 2025. Soon-Shiong a fait fortune en mettant au point un médicament anticancéreux appelé Abraxan. Il est également actionnaire de l'équipe de basket américaine, les Los Angeles Lakers. Pays africain le plus touché par le Covid-19, l'Afrique du Sud compte plus de 3,5 millions de cas, dont 93 400 décès. Les infections ont monté en flèche depuis que le variant Omicron y a été découvert. Toutefois, le taux de vaccination reste faible parmi les près de 1,2 milliard d'Africains en raison de difficultés d'approvisionnement et aussi du scepticisme d'une partie de la population.
En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo a demandé mercredi à être invitée au dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition qui doit reprendre demain jeudi, appelant l'exécutif à y associer davantage d'acteurs. Ce dialogue vise à décrisper le climat politique après les violences électorales de la présidentielle d'octobre 2020 qui avait fait 85 morts et 500 blessés. Au Cameroun, Amadou Vamulke, un ex-patron de l'audiovisuel public, est en détention provisoire depuis 2000 jours, plus de 5 ans et demi, pour détournement de fonds publics présumés, ont dénoncé ce mercredi le Comité international pour la réhabilitation et la libération du journaliste et son avocate. En juillet 2021, l'ONG Reporters sans frontières avait dénoncé une infernale cabale judiciaire et des accusations qui ne reposent sur aucun élément sérieux. Le journaliste est, selon RSF, réputé pour son intégrité. En 2020, l'ONU avait demandé la libération du journaliste. RSF appelle le président tunisien Kais Saied à préserver la liberté de la presse, l'un des principaux acquis de la révolution de 2011, point de départ d'une vague de révolte en Tunisie. L'appel intervient au lendemain de la dénonciation par une vingtaine d'ONG tunisiennes d'un péril imminent pour les libertés dans le pays. Le point avec Dany Talani.
Dans son rapport, RSF estime qu'il y a un risque de dilution des acquis de la révolution du journalisme et veut tirer un signal d'alarme. La trop lente transformation du secteur médiatique tunisien depuis 10 ans et les évolutions politiques récentes menacent la liberté de la presse, qui fut pourtant le premier acquis de la révolution tunisienne, a insisté l'ONG. Elle affirme que le coup de force du président Kais Saied, qui, l'an dernier, a gelé le Parlement et s'est octroyé tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, s'est accompagné d'une augmentation des exactions commises à l'encontre de la presse. L'organisation mentionne la violente répression qui a touché une vingtaine de journalistes qui couvraient les manifestations de vendredi dernier. Nous sommes extrêmement inquiets de ce virage autoritaire qui impacte directement la presse tunisienne. Une presse libre et indépendante est indissociable de l'avenir de la démocratie tunisienne, a noté le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire. Il appelle le président Kais Saied à s'engager résolument à préserver et respecter les garanties constitutionnelles et les engagements internationaux de la Tunisie en faveur de la liberté de la presse.
Les représentants de la diplomatie américaine ont rencontré aujourd'hui des militants pro-démocratie pour discuter d'une sortie de crise au Soudan qui s'enfonce dans la violence depuis le putsch militaire d'octobre. L'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, David Satterfield, et la secrétaire d'État adjointe, Molly Fee, ont rencontré des familles de victimes tuées durant la répression des manifestations ainsi que l'association des professionnels soudanais fer de lance de la révolution qui renversa le dictateur Omar el-Béchir en 2019, indique l'ambassade américaine à Khartoum. Après être passé par Riyad, où se réunissaient les amis du Soudan, européens, américains, saoudiens et émiratis, les deux émissaires américains doivent aussi discuter à Khartoum avec des responsables, notamment militaires du nouveau pouvoir, qui s'est imposé avec le coup d'État du général Abdel Fattah el-Burhan le 25 octobre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Deux opérateurs américains de téléphonie mobile vont finalement retarder temporairement le déploiement de la 5G autour de certains aéroports aux États-Unis. Ce report intervient après les craintes soulevées par les acteurs du transport aérien. Abdourahman Dia.
Les compagnies AT&T et Verizon devraient activer la nouvelle technologie d'Internet mobile ultra rapide dans l'ensemble du pays ce mercredi. Mais l'autorité américaine de l'aviation, la FAA, s'inquiète de possibles interférences entre les fréquences utilisées par la 5G et celles utilisées par des instruments de bord essentiels à l'atterrissage des avions dans certaines conditions météorologiques et a exigé des ajustements. La FAA a pour l'instant validé l'utilisation de certains modèles radioaltomètres et donné son aval pour 48 des 88 aéroports américains les plus directement affectés par les risques d'interférence. Il reste donc des restrictions dans certains cas. Les patrons de 10 sociétés de transport aérien avaient appelé lundi les autorités à intervenir immédiatement afin d'empêcher une importante perturbation du trafic. Les deux opérateurs regrettent pour leur part que les autorités aient mis autant de temps à réagir à ce déploiement de la 5G prévu depuis au moins 2 ans. Selon le Wall Street Journal, quelques compagnies basées hors des États-Unis, dont Japan Airlines, Emirates et Air India, ont annulé certains vols à destination du pays.
Joe Biden donne une conférence de presse aujourd'hui, un an après son arrivée à la Maison-Blanche, en avant-goût de ce rendez-vous prévu à 21h GMT. La porte-parole du président américain, James Psaki, a promis mardi que désormais Joe Biden allait parler davantage des succès engrangés depuis son investiture le 20 janvier 2021. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Une délégation ministérielle malienne a achevé mardi soir sa visite de 2 jours en Mauritanie. Le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, qui la conduisait, a transmis un message du président de la transition Assimi Goïta, demandant au chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani ses conseils et son implication auprès des frères maliens pour que nous puissions trouver une solution à nos difficultés. Fin de citation. Des propos qui laissent entendre la volonté de Bamako d'impliquer Nouakchott dans une médiation dans la crise qui l'oppose à la CEDEAO. C'est l'avis en tout cas du chroniqueur politique mauritanien Bakary Gueye. Il est interrogé par Mohamed Diop.
Le Conseil national de transition au Mali œuvre pour trouver le bon équilibre entre les aspirations du peuple malien et les demandes de la communauté internationale. Ce sont les mots d'Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au sortir d'audience avec le président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. S'agit-il d'un appel à la médiation mauritanienne dans la crise opposant Bamako à la CEDEAO? Pour Bakary Gueye, chroniqueur politique, une telle médiation est bien envisageable.
La diplomatie mauritanienne saura en tout cas jouer la résolution de ce problème-là. Et je crois qu'elle en a les moyens, elle en a les moyens, d'autant plus que les rapports entre la Mauritanie et la CEDEAO sont excellents, comme ces rapports d'ailleurs avec le pouvoir malien. Donc, je crois que effectivement cette médiation-là est envisageable, pour ne pas dire qu'elle est déjà en cours.
C'est même dans l'intérêt de la Mauritanie que la crise au Mali soit réglée le plus rapidement possible. Bakary Gueye.
Parce qu'on sait que la Mauritanie partage près de 2000 kilomètres de frontière avec le Mali. Et on sait que la situation sécuritaire, en tout cas au Mali, risque en tout cas de se dégrader encore davantage avec ces sanctions, avec cet embargo qui ne dit pas son nom. Donc la Mauritanie a intérêt à mettre son poids dans la balance.
En tout cas, le chef de la diplomatie malienne indique avoir bénéficié des sages conseils du président Razouani, qui contribue toujours, dit-il, à la stabilité de la sous-région. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
En Côte d'Ivoire, le Centre hospitalier universitaire de Trècheville, en partenariat avec l'Institut de cardiologie d'Abidjan, vient de réussir une transplantation de foie, une première en Afrique noire francophone. Comment l'équipe médicale en est arrivée là? Les détails dans ce dossier d'actualité réalisé par Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
L'opération des greffes de foie consiste à remplacer un foie malade par un foie sain. Comment cela a été possible? Explication avec le chef de l'équipe médicale, professeur Eli Kelly, chef des services de chirurgie générale, digestive et endocrinienne du CHU de Trècheville.
Effectivement, nous avons réalisé une transplantation hépatique à l'Institut de cardiologie chez une dame de la soixantaine qui a reçu une partie du foie de son fils. Alors, cette opération a été possible parce que d'abord elle était nécessaire. La dame souffrait d'une maladie qu'on appelle la cirrhose qui arrivait à un stade terminal. Et cela a été possible parce que nous avons dans un premier temps eu besoin de l'assistance technique de collègues africains, précisément égyptiens, qui ont une grande expérience de cette technique. Cela a été possible également parce que nous-mêmes, nous en avons la formation. Moi qui vous parle, c'est un projet sur lequel je suis depuis environ 34-35 ans. J'ai été formé aux États-Unis, dans l'État de Pennsylvanie, dans la ville de Pittsburgh, précisément à l'UPMC. J'ai commencé ma formation en 2006 et je l'ai achevée en 2016. Cela a été possible aussi parce que l'équipe que j'ai, mon équipe, a été formée à cette intervention.
Au dire du praticien, 17 médecins ont participé à cette opération des greffes de foie qui a duré globalement 12 heures de temps. Alors, comment se porte le donneur et le receveur? Réponse du professeur Eli Kelly.
Le donneur est sorti il y a une semaine, a quitté l'hôpital. Et aujourd'hui, le receveur est encore hospitalisé, mais tout se présente bien. Et nous pensons que d'ici une semaine, la patiente va sortir.
Mais quelle est la pertinence de cette évolution pour la Côte d'Ivoire?
Cette activité va certainement relever la qualité des prestations médicales en général en Côte d'Ivoire.
Un membre de l'équipe médicale ayant pris part à cette opération précise son rôle.
Kipri Bagnon, je suis infirmière anesthésiste faisant office de surveillant d'unité de soins à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. C'est nous qui avons commandé les produits des deux patients. Nous étions dans le champ pour suivre depuis l'induction jusqu'à la sortie des patients du bloc opératoire. C'est très bien passé et tout le monde était véritablement content d'avoir participé à cette première expérience.
Une greffe de foie réalisée avec succès par le professeur Eli Kelly et son équipe. Qu'en pensent les Ivoiriens?
On peut faire confiance à nos médecins.
Nos dirigeants doivent continuer à équiper nos hôpitaux, faire aussi confiance à nos docteurs, nos chercheurs.
Et déjà, bravo à l'équipe, ils ont relevé un défi.
Le directeur général du CHU de Trècheville exprime sa joie et fait cette proposition. Yao Etienne.
Notre vision au CHU de Trècheville, c'est de faire de cet hôpital l'hôpital de référence en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.
La Côte d'Ivoire devient ainsi le premier pays d'Afrique noire francophone à réaliser cette greffe de foie. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
L'organisation Reporters sans frontières, RSF, a appelé aujourd'hui le président tunisien Kais Saied à préserver la liberté de la presse. Il s'agit de l'un des principaux acquis de la révolution de 2011, point de départ d'une vague de révolte dans la région, connu sous le printemps arabe. Eric Manirakiza a joint à Tunis Frida Damani, la correspondante de Jeune Afrique, qui parle de son expérience personnelle et dresse le bilan global de la situation de la presse en Tunisie.
Ah oui, pour ma part, oui, je l'exerce librement. Je n'ai jamais eu de pression ni quoi que ce soit. Seulement, les journalistes qui vont sur le terrain se rendent compte qu'ils n'ont pas la possibilité de couvrir des manifestations. Et surtout, surtout, depuis le 25 juillet dernier, on a du mal en tant que journaliste à être en contact avec l'exécutif. L'exécutif a mis une barrière entre lui et les médias. Ça rend le travail très difficile parce que on peut pas se contenter juste de passer des dépêches. Le travail journalistique est d'une autre teneur. Donc voilà, ça fait partie de ce qui se pose comme problème, sans compter que nous sommes dans une profession qui était en train de se réguler petit à petit, parce qu'elle-même, elle est en transition. Elle est passée d'une époque de dictature à une époque de révolution très mouvementée. Il a fallu qu'elle se régule, qu'elle fasse aussi, parce qu'en même temps, il y a eu la montée et l'émergence des réseaux sociaux qui sont un autre média. Tout ce travail journalistique a dû aujourd'hui trouver de nouveaux fondements et de nouveaux repères. On y est déjà, mais seulement, voilà, maintenant, pour exercer, c'est très difficile dans la mesure où on ne peut pas traiter l'information, non pas librement, on peut écrire ce qu'on veut ou dire ce qu'on veut, mais nous n'avons pas accès à l'information. On ne peut pas, par exemple, aller interroger un ministre sur un point d'environnement ou des choses comme ça aujourd'hui. Ils sont inaccessibles. Il y a un problème de communication avec l'exécutif et donc ça nous enlève toute une partie de secteurs sur lesquels on peut travailler, qui est très important, aussi bien pour l'analyser, le décrypter, que le transmettre au public.
Est-ce que vous estimez que la liberté d'expression ou la liberté de la presse est menacée aujourd'hui en Tunisie?
Ce qui est menacé, c'est qu'on est mis à l'écart. Je ne dis pas qu'on est menacé, parce que c'est très difficile, une fois qu'on a appris la liberté, à pouvoir s'en passer. C'est-à-dire que là, dès que quelqu'un, on sent un léger dépassement, il y a forcément une levée de bouclier, les gens ont résistance. L'opinion est très très forte là-dessus. Mais on a constaté dans les manifestations, entre autres vendredi dernier, qu'un de nos collègues de Libération a été passé à tabac par les forces de l'ordre et on lui a retiré la carte SD où il avait des photos. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a aussi ce côté du pouvoir qui ne veut pas qu'on ait de lui une mauvaise image, qui ne veut pas qu'il y ait des photos de manifestations ou plutôt d'interventions de la police sur les manifestations qui apparaissent. On est toujours dans le même système, mais c'est un système particulier ou propre, je dirais, aux pays arabes. C'est pas propre à la Tunisie. Et ce n'est pas encore la dictature, c'est juste un système qui se protège.
Frida Adamani, correspondante de Jeune Afrique à Tunis. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden termine sa première année de mandat avec une faible cote de popularité, en grande partie à cause d'une reprise économique freinée par l'inflation et d'une pandémie qui reprend de plus belle. Et ce, malgré l'aboutissement d'un consensus bipartisan dans l'adoption de son plan de relance de 1900 milliards de dollars et un programme d'infrastructure de 1000 milliards de dollars. Le reportage de Patsy Widakuswara, chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche. Le récit avec Eric Manirakiza.
Le plan d'aide COVID-19 de 1900 milliards de dollars adopté par l'administration Biden en mars a aidé les entreprises et les familles américaines à faire face à des effets financiers de la pandémie. Le plan de relance a permis le versement de 1400 dollars à des millions d'Américains à revenus faibles et intermédiaires, ainsi que des paiements mensuels qui ont fait leur preuve dans la réduction de la pauvreté. Mais pour beaucoup, l'inflation croissante a minimisé l'impact de cette aide.
À cause du Covid, les gens n'ont pas d'argent. Nous commençons tout juste à reprendre le travail et des choses comme ça. C'est scandaleux avec le prix de l'essence aujourd'hui.
En décembre, les prix à la consommation étaient supérieurs de 7% par rapport à l'année précédente, ce qui constitue le taux d'inflation le plus élevé depuis 40 ans. L'inflation a freiné la reprise économique au cours d'une année qui, selon l'administration, a connu la plus forte croissance de l'emploi de l'histoire américaine. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki.
Regardez les demandes initiales du chômage. Elles sont en moyenne de 800. Elles étaient de 812 000 il y a un an. Elles sont maintenant à 210 000. Le taux de chômage est évidemment la création d'emplois l'année avant la prise de fonction du président et l'année dernière. En ce qui concerne le Covid, il y a un an, seulement 1% des adultes étaient complètement vaccinés. Aujourd'hui, 74% des adultes sont complètement vaccinés.
La distribution massive des vaccins COVID-19 a offert une protection à plus de 200 millions d'Américains et a même permis un bref retour à la normale l'année dernière, jusqu'à ce que le variant Omicron fasse exploser les cas et les hospitalisations. La pandémie et l'inflation ont été deux facteurs majeurs de la baisse du taux d'approbation du président Joe Biden à la fin de sa première année, autour de 45% selon Ipsos, une société d'études de marché. Mallory Newell est vice-président de Public Affairs à Ipsos.
Le président a fait campagne sur l'éradication du Covid et le retour à la normale de l'économie et de l'Amérique. Et plus la pandémie se prolonge, plus les Américains sont dans l'incertitude et franchement, plus ils ressentent de la frustration du fait qu'ils doivent encore faire face à la pandémie.
L'agenda législatif de M. Biden est aussi mitigé. Il a fait adopter une loi sur les infrastructures d'un montant de 1 000 milliards de dollars avec le soutien des Républicains, le plus gros investissement dans les travaux publics des États-Unis depuis une génération. Mais il n'a toujours pas fait passer son plan de dépenses sociales et de lutte contre le changement climatique, doté de 1 750 milliards de dollars, alors qu'il a déjà été réduit de moitié par rapport à sa taille initiale. D'autres points de son agenda législatif restaient bloqués. Deux projets de loi sur le droit de vote qui élargiraient considérablement le contrôle fédéral sur les élections sont bloqués au Sénat en raison de l'opposition des Républicains. Certains analystes estiment que l'administration et les démocrates doivent revoir leur copie. Kevin Kossar, American Enterprise Institute.
Ils doivent se demander, en réalisant que les républicains n'auront que très peu d'intérêt à coopérer sur les questions de grande importance, quelles sont les petites choses sur lesquelles ils pourraient travailler en vue de gagner du terrain au fil du temps et changer le récit de « Hey, ce type est arrivé et a fait de grandes promesses et a échoué à « Hey, ce type a essayé et a obtenu beaucoup de petites réalisations ».
Et malgré la promesse de Biden de guérir une nation divisée, les Américains sont toujours profondément polarisés après l'attaque du Capitole par les partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021.
Les sondages suggèrent que la plupart des républicains croient encore à l'affirmation sans fondement poussée par l'ancien président, selon laquelle l'élection de 2020 a été volée.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.